C'est l'heure de Tunet, Tuning, Tu meurs, ton rendez-vous mensuel qui glorifie, valorise, sublime les introspections. Les tiennes, les miennes, les nôtres. Le troisième samedi de chaque mois, de midi à 13h, retrouve Baptiste pour éclairer les questions existentielles qui sommeillent en toi et fais-le plein d'optimisme avec des entretiens longs, des micro-trottoirs et plein d'autres surprises. C'est l'heure de TTT, n'est-ce pas Baptiste ?
Vous l'avez reconnu, on a mis le turbo. Tin, 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 tin. Et ça tombe bien puisqu'il ne s'agit pas du tout de ça. Bon matin, bienvenue à toi, à vous, dans Tunet, Tuning, Tumeur, il est midi. Nous sommes le 15 octobre 2022 et jusqu'à preuve du contraire, nous sommes sur et non sous terre. Dans Tunet, Tuning, Tumeur, on se pose beaucoup de questions, sans pour autant prétendre avoir les réponses. Bref, vous me voyez venir, on est en recherche de sens dans une société qui n'en a plus. Et si on prenait justement le temps de célébrer nos questions, de comprendre où est-ce qu'elles prennent racine, de valoriser les moments de doute, d'incertitude, et puis ce qui nous arrive de bien aussi. La recette de l'émission est simple, tous les mois j'ai plaisir à disséquer les questions existentielles qui sommeillent fugacement en nous, tantôt en explorant des parcours de vie aux magnifiques sinusoïdes, tantôt en vous partageant des lectures salvatrices. C'est la rentrée. Chez Pôle Emploi, me susurre, ma conseillère entre deux mails me proposant des réductions de choix sur les derniers Thermomix à souple connectés, ou encore un sondage pour mieux savoir à quel point il est urgent que je ne manque pas la prochaine Coupe du Monde Nouveau. Je crois que c'est celle que tout le monde attend, puisqu'on n'aura jamais vu une telle inception. Un four de personnes dans un frigo de stade, lui-même dans un four de désert, lui-même dans un congélateur de pays qui n'en finit pas de limiter le développement de toute forme de bactéries démocratiques. Mais bref, trêve d'inception dicapriesque, je m'égare sur l'ordre du jour. Revenons à ma conseillère Pôle Emploi. C'est donc la rentrée chez Pôle Emploi. C'est bien. À en croire les objets de ma boîte mail, c'est la rentrée partout. Et les listes de fournitures scolaires des enfants sont envoyées à leurs parents. Mais alors à qui sont envoyées les fournitures employeuses des chômeurs, des chômeuses ? Chers visiteurs de pôle-emploi.fr, vous avez été sélectionnés pour participer à ce sondage anonyme. Dites-nous ce que vous pensez de pôle-emploi.fr dans ce questionnaire de 30 secondes. Et pour vous remercier, nous vous proposons une valeur de cadeau exclusif et gratuit, à plus de 75 euros. Quelque chose me dit qu'il y a matière à poser la question à deux personnes. À qui sont envoyées les fournitures employeuses des chômeurs, des chômeuses en cette rentrée à Pôle Emploi ? On va la poser à Sonia Kronlund, des Pieds sur Terre, ainsi qu'au duo de BDIS, Berthier et Girard. Commençons par ces deux comparses, à l'origine de la BD Paul, l'emploi et les quatre Hubert. Alors je vais vous lire la quatrième de couverture. Voie lactée 2346. Les robots ont remplacé tous les travailleurs. Les taux de chômage galactique atteignent les 99%. Paul, l'emploi et ses quatre Hubert vont sillonner l'univers à la recherche d'un poste à pourvoir. À leur trousse, les contrôleurs du docteur Chomax guettent le moindre faux pas pour les radier de la galaxie et leur couper les allocs. L'univers tout entier a besoin de vous. La grande bataille de l'emploi ne fait que commencer. On va devenir des héros ! Finalement, cet incendie tombe plutôt bien. Nous avons perdu un agent, mais je vous ai dégoté trois nouvelles recrues de premier choix. Vous repartez en mission, l'emploi. Bonne nouvelle, je commençais un peu à rouiller ici. Messieurs, je suis ravi que vous soyez venus. Avant toute chose, je vous demanderai de vous présenter. Exécution. Anthony Stoblat, monsieur, mais vous pouvez aussi m'appeler... Erreur, vous vous appelez... Hubert. Sauf votre respect, monsieur, vous devez vous tromper. J'avais bien un oncle qui s'appelait Hubert, mais il est mort. Je ne me trompe jamais, écoutez-moi bien. Pour cette mission, vous devrez oublier qui vous étiez. Nous effacerons jusqu'au souvenir de votre mère. Vous abandonnerez tout. Nom, prénom, exigence salariale, dignité, vous serez ubérisé jusqu'à la racine. Il n'y a pas de retour possible. Mais nos familles et nos amis? Ils viennent d'être avertis de votre décès. Nous leur avons envoyé vos cendres dans un Tupperware. À ce propos, toutes mes félicitations. Vous êtes mort en héros au cours d'une opération de sauvetage dans une usine incendiée.
Quoi? Mais ma femme, mes enfants, Pénélope, Marius, Jules, Archimède, mon poisson rouge!
Calmez-vous, Hubert. Je sais ce que vous ressentez. Il fut un temps où j'étais Laurent, VRP en rouleau à pétisserie. J'avais moi-même un Varane, Labrador, mauve d'Uranus, Titoun. Il avait un beau poil soyeux. Quand je partais au boulot le matin, il m'accompagnait jusqu'à la porte et il mettait son petit museau humide dans le creux de ma main. C'était sa façon à lui de me dire « Travaille bien, à ce soir ». Quand j'ai perdu mon job, je n'ai plus eu les moyens de lui acheter ses 200 kilos de poussins quotidiens. Oh, Titoun, je suis tellement désolé. Tout ça pour vous dire que nous n'avons plus le choix. La situation exige tous les sacrifices. Le grand remplacement par les robots est presque entièrement achevé. Vous opérez sous les ordres de Paul l'emploi, votre job manager. L'emploi, faites-leur un topo de la situation. Avec plaisir, messieurs, j'irai droit au but. Les robots volent nos emplois.
C'est officiel, c'est la rentrée. Les résolutions bronzées, les récits de vacances salés, l'entrain, l'espoir, un nouvel élan, une nouvelle grille sur France Culture, du sang neuf ou rafraîchi. Cette année, dans Les Pieds sur Terre aussi, il y aura plein de nouveautés, des bonnes histoires, de nouvelles séries et des anciennes qui continuent, comme le journal breton, des feuilletons fantastiques sur les élections, des séries fantaisistes, une enquête entre la France et l'Algérie, des nouvelles formes d'écriture, des tentatives de récits différents et pas pareils, mais tout ça pour dire la même chose, rassurez-vous. En cette rentrée, on continue notre boulot de base, notre B2B, méthodique, documentaire sur la France invisible, la France d'en bas, la France des quartiers, les vrais gens, les pauvres, les autres, appelez-les comme vous voulez. C'est la rentrée pour nous, pour vous peut-être, mais pour eux c'est la routine. Rien de neuf, hélas, l'habitude, la rengaine, des chiffres plus ou moins truqués qui tombent chaque mois plus déprimants, des entretiens qui foirent, des questions sans réponse, des coups de fil qui sonnent dans le vide. À la rentrée 2016, les demandeurs d'emploi sont toujours aussi nombreux. En juin, ils étaient même plus nombreux qu'en mai, 18 000 chômeurs de plus malgré 340 200 radiés ce mois-là. De l'autre côté du guichet, chez les conseillers de Pôle emploi, la pression est énorme pour faire baisser ces chiffres. L'engagement présidentiel numéro 1, la promesse de François Hollande, le sine qua non, sans quoi il ne se représentera même pas. La pression est grande, mais les moyens humains diminuent, ils se rationalisent, ils s'automatisent, mais il faut pourtant produire. Selon Canard Enchaîné, par exemple, une note interne aurait été diffusée récemment au cadre de Pôle emploi, dans laquelle la direction leur donnerait l'instruction de faire passer d'ici au 31 décembre 2016 500 000 chômeurs en formation professionnelle. Sachant bien sûr qu'un chômeur en formation professionnelle n'est plus comptabilisé comme chômeur. 1 milliard d'euros, toujours selon l'hebdomadaire satirique, aurait été débloqué pour financer ce plan. Aujourd'hui dans Les Pieds sur Terre, donc c'est la rentrée à notre façon, avec un petit tour chez Pôle emploi pour prendre la température d'une France dont le chômage serait le problème principal, un thème de campagne. En tout cas, c'est jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture. Allez, c'est reparti et c'est un reportage de Pascal Pascariello.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Bénédicte. Je travaille au sein de Pôle emploi dans une agence située dans la région bordelaise et j'effectue donc le métier de conseillère indemnisation depuis 2003 déjà. La mort programmée de l'assurance chômage, en tout cas dans mon métier, c'est ce que je suis en train de vivre. Moi, bon, voilà, ce qui me fait rester à Pôle emploi, c'est quand même pas uniquement alimentaire. Il y a quand même derrière une mission de protection sociale, voilà, à laquelle je suis vraiment, vraiment attachée. Donc les missions d'assurance chômage, c'est pas rien. C'est ce qui fait que notre société, elle puisse aussi continuer à tourner pour les gens qui sont en rupture professionnelle, souvent subie. Or, en fait, moi, ce que je vois, et c'est ce que je vis très mal, et c'est pour ça que je sais pas comment demain je vais vivre ça, mais ce que je vois, c'est que cette mission, en fait, elle n'est plus souhaitée à Pôle emploi. Ce que je vois, c'est que la machine, depuis mars, fait mon métier, me le confisque. Et que bah, ça, ouais, c'est sûr qu'on n'en sort pas indemne. Et que demain, si tout ça est sous-traité et disparaît de Pôle emploi, moi, j'ai du mal à me projeter. Bah, j'ai vécu un vrai épisode d'épuisement professionnel. D'abord parce que je voulais absolument bien faire mon travail et qu'on ne me donnait pas les moyens, malgré en fait le fait de le faire remonter, et pas toute seule. Hein. Moi, j'ai aussi des collègues qui sont dans la même logique, mais à force de ne pas être écoutée, donc c'est très frustrant. J'étais amenée à faire des semaines de 40 heures, 42 heures, et je pensais Pôle emploi, je pensais mon travail à tout moment de la journée sans que mon esprit se repose, parce que ce qu'il faut voir, c'est que nos problèmes sont sans fin. C'est-à-dire que nos retards de traitement sont quotidiens, on n'arrive jamais à juguler ça. La charge de travail, donc les dossiers qui s'empilent, alors maintenant on les voit plus parce que c'est dématérialisé, mais quand on les voyait, donc on voyait ces piles de dossiers s'accumuler, donc c'était une image forte, et quand on n'arrive plus à s'enlever ça de la tête, donc c'est vrai qu'à un moment donné, on devient malade du travail, et puis malade aussi de voir les demandeurs d'emploi pas toujours bien traités, voilà. Je m'enfermais, en fait, d'ailleurs à ce moment-là, je parlais, enfin il y a eu une période où je m'étais coupée de toute communication auprès de mes collègues, donc le matin j'arrivais, j'allais dans mon bureau, je mangeais pas, et je faisais que traiter mes dossiers, submergée par cette charge de travail. Et en fait, ce que j'ai fini par comprendre, c'est que c'est pas en faisant plus, toujours plus, qu'on va juguler la charge de travail. La solution, elle est ailleurs. Donc, il m'a fallu aller au-delà de mes limites pour comprendre que la solution, elle n'est pas uniquement dans une prise en charge individuelle et de prendre tout sur ses épaules, même si il faut continuer à le faire, parce que moi, faire mon travail de manière impersonnelle, je peux pas. Voilà, je m'y investis, j'y mets beaucoup de cœur, mais en même temps, il faut que la direction prenne ses responsabilités et mette du personnel en face des besoins. Donc est venue au mois de mars l'automatisation des services. Donc une personne qui souhaite s'inscrire et qui dépose une demande d'allocation chômage ne peut le faire aujourd'hui que par Internet. Donc elle va saisir en ligne sa demande d'allocation chômage. Il peut y avoir jusqu'à 70 grilles à remplir. Et donc les demandeurs d'emploi se retrouvent désormais seuls face à la machine. Avant, ils avaient un entretien indemnisation avec un conseiller qui pouvait leur expliquer quoi déclarer pour obtenir les droits associés. Et nous, bien souvent, aujourd'hui, quand on récupère les dossiers, quand on scrute un petit peu le passé professionnel, on se rend compte qu'il manque plein d'éléments et que les gens passent potentiellement à côté de leurs droits. On ne va pas pouvoir éplucher toutes les erreurs. Les erreurs qu'on va pouvoir identifier, c'est celles qui sont remontées par les demandeurs d'emploi. Or, encore faut-il que le demandeur d'emploi ait conscience qu'il y ait une erreur de traitement par Pôle emploi, ce qui n'est pas évident si on ne connaît pas la réglementation de l'assurance chômage. D'où l'importance de continuer cette relation humaine. Et au niveau de la direction, on nous prend pour plus bête certainement qu'on est. On nous explique que de travailler demain uniquement par mail, on augmente la personnalisation du suivi. En étant coupé d'une relation humaine avec les demandeurs d'emploi. Et il faut y croire, c'est ce qu'on nous explique. Il faut y croire. On nous balance un film avec des mots qui sont répétés sans arrêt. Simplification, personnalisation, simplification, personnalisation, simplification du traitement et personnalisation de la relation, jusqu'à ce que ça rentre dans la tête. La machine, hein, qui a un nom, hein, c'est NPDE, Nouveau Parcours demandeur d'emploi, donc a pris la main hein, sur mon métier, hein, puisque sans qu'on ait été préparé quand même. Hein, voilà. Ce qui nous arrive là, c'est ce qu'appelle la direction le virage digital. Mais c'est présenté comme une religion, il faut y croire. C'est-à-dire que peu importe si c'est pas humain, peu importe si c'est... si c'est quelque chose qui est en conflit avec ses propres valeurs, peu importe si c'est pas adapté, parce que à la limite, si c'était adapté, bon, peut-être que ça me ferait réfléchir. Mais ce que je vois, c'est que ça augmente la galère des gens, ça augmente notre quantité de travail. On travaille que sur du négatif, c'est-à-dire que sur des réclamations, en reprenant sans arrêt les dossiers. Donc non, c'est... Enfin, moi, je ne souhaite pas entrer en religion. Ça arrive souvent, donc on a des cas, on a un petit peu des cas d'école. Donc, si un demandeur d'emploi ne rencontre pas un conseiller pour regarder son dossier, du coup, il va être amené à rembourser son trop perçu alors qu'il n'est pas dû. Un trop perçu, donc que Pôle emploi donc, a donc versé trop d'argent par rapport à une situation déclarée. Et bien souvent, on est amené à annuler le trop perçu parce qu'en réalité, il n'est pas dû. Or, aujourd'hui, quand il ne rencontre pas de conseiller indemnisation, c'est clair que pour beaucoup, ils doivent rembourser les trop perçus qui ne sont pas dus. Personnellement, j'ai fait remonter ces situations. Je ne suis pas la seule, hein, mais voilà, ce qu'on m'a répondu, c'est qu'à un moment donné, on a des indicateurs, on a des objectifs à atteindre. Et l'objectif aujourd'hui qui m'est demandé en tant qu'agent, mais voilà, c'est pas d'empêcher ces trop perçus à tort, c'est de les recouvrer. Il faut que 70% des trop perçus soient recouvrés. Ce qui me sauve dans ce contexte, en fait, c'est que face à cette injustice, je fais en sorte que, bah, quand je travaille, de vérifier chaque trop perçu. Mais après, on est face à un traitement de masse aussi. Enfin, face aux milliers de trop perçus qui sont déclenchés, mon action, enfin, c'est une goutte d'eau. À un moment donné, ça peut faire péter un boulon, mais après, il faut vivre avec. Enfin, il faut continuer à travailler avec ça. Et là, moi, c'est un gros point d'interrogation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces nouvelles modalités sont pas totalement assumées. Moi, c'est ça aussi qui me gêne. C'est-à-dire que quand on m'a expliqué la mise en place, en fait, de l'automatisation et puis la fermeture des agences l'après-midi. D'ailleurs, ce mot est interdit. Hein, on ne doit pas parler de fermeture l'après-midi. On doit parler d'accès libre le matin. Enfin, vous voyez, on a toute une série de vocabulaire à respecter. Donc, il y a même une volonté d'emprise de vocabulaire qui est quand même aliénant, moi, je trouve. Enfin, en tout cas, on ne peut pas aujourd'hui... Enfin... Dire aujourd'hui qu'après-midi on est fermé, c'est presque même un acte de résistance, parce que en fait, même jusque dans le vocabulaire, en fait, on est brimé, puisqu'il y a une série de mots à employer. Et donc, justement, quand on a fermé les après-midi, il y a eu des consignes de vocabulaire vis-à-vis des demandeurs d'emploi à tenir. Moi, il me semble que l'ouverture de l'après-midi est possible, parce que ça, aujourd'hui, quand on ferme les portes l'après-midi, ça demande autant de personnel que quand on les ouvrait. Hein, puisqu'il faut une personne, tenez-vous bien quand même, hein, il faut quand même une personne pour ouvrir la porte. Donc aujourd'hui, alors qu'on a des compétences, qu'on est qualifié, on me demande de tenir un poste qui est d'ouvrir une porte, alors que je peux être beaucoup plus utile au demandeur d'emploi en direct pour traiter ses besoins et lui apporter voilà, du service. Or là, on mobilise une personne uniquement pour ouvrir une porte, pour répondre à un interphone. Enfin, c'est humiliant. Mais ce que je voulais dire, c'est plutôt le discours de la direction aussi. Parce que quand elle embauche des nouveaux collègues, bien souvent, elle leur dit, en guise de bienvenue, bienvenue dans le bon côté du guichet. C'est le discours d'accueil des nouveaux... recruter en même temps aussi pour c'est un discours aussi qui fait peur, hein, c'est-à-dire vous allez faire ce qu'on vous dit parce que Pôle emploi vous sauve et vous met dans le beau côté du guichet. C'est tellement visuel, c'est tellement c'est une manière de créer une distance, voilà, symbolique entre le chômeur et le conseiller, c'est-à-dire que il y a la bulle Pôle emploi et puis de l'autre côté il y a les chômeurs. Pour moi, en fait, il y a un déni d'humanité, en fait, et on fait tout pour plus voir les demandeurs d'emploi, en fait. Il y a une volonté de les mettre à l'écart, de les voir uniquement quand on les siffle, c'est-à-dire quand il y a une demande de rendez-vous de la part de Pôle emploi. Moi, ce qui m'attriste, c'est que Pôle emploi, qui est une institution dédiée à l'assurance chômage et à l'accompagnement à l'emploi, aujourd'hui, on lui fait décréter de ne plus recevoir les demandeurs d'emploi. Il y a quand même quelque chose qui va pas. Souvent, les demandeurs d'emploi viennent gêner nous voir en disant moi, je veux pas profiter, mais j'en dis, attendez, non, c'est pas un bénéfice ni un profit, c'est un droit. Vous avez travaillé, vous avez cotisé pour ce besoin. Et donc, le chômage n'est pas choisi, il est subi. Le poids de l'institution est tel que... C'est difficile de dire « je » parce que face à Pôle emploi, l'individu s'efface. Donc aussi bien les chômeurs que les salariés, on n'existe pas. L'individu, il est écrasé.
France Culture, les pieds sur terre.
Ben, je m'appelle Christophe, j'ai 33 ans et je suis conseiller à Pôle emploi en Picardie. J'ai débuté en 2007. Alors j'ai débuté à la NPE au départ, sur une structure d'insertion qui s'occupait des gens les plus en difficulté, des gens qui étaient demandeurs d'emploi de très longue durée, des personnes qui avaient eu des accidents de parcours, des gens qui ne parlaient pas français, qui venaient d'arriver en France et qui cherchaient du boulot. Et puis à partir de 2012, je suis entré en agence, donc au départ sur un poste de conseiller classique. Alors, moi, aujourd'hui, je me pose vraiment la question de mon utilité. Et d'ailleurs, on est beaucoup de collègues dans mon agence, et puis je pense ailleurs, à vraiment se poser cette question-là. C'est-à-dire que j'en discutais avec des collègues il y a quelques semaines où je me demandais depuis quand j'avais pas proposé une offre à quelqu'un et que cette personne ait eu le poste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, on me demande de faire, par exemple, des mises en relation, c'est-à-dire de récupérer une offre et de la donner à un demandeur d'emploi, voire de faire de la mise en relation accompagnée, c'est-à-dire de pouvoir appeler l'employeur et de dire « voilà, j'ai cette personne-là ». Sauf que la difficulté, c'est que avec un portefeuille de demandeurs d'emploi de 220 personnes, c'est très compliqué de connaître les gens. C'est vrai que ça, c'était une des différences avec ce que j'ai pu faire en insertion, où là, j'avais 50 personnes, donc je les connaissais très bien. Et puis en plus, aujourd'hui, je peux donner des offres où il y a déjà 150, 180 candidats, quoi. Donc quel est l'intérêt, ce genre de choses? Moi, je le vois pas forcément. Pôle emploi demande à faire plus pour ceux qui en ont plus besoin, et puis en même temps met tout sur Internet. Donc aujourd'hui, moi, j'ai plus l'impression d'être accompagnant sur Internet que d'être vraiment dans le conseil. Et puis, on reçoit des gens à la chaîne où si je vais recevoir 5 secrétaires dans la matinée, je peux leur proposer 5 fois la même offre où je sais qu'il y a déjà 80, 100 candidatures. Il y a quand même beaucoup de gens qui font des scandales à l'accueil, de gens qui jettent des chaises, de gens qui veulent tout casser. Dans mon agence, il y a quand même régulièrement la police qui vient parce que les gens veulent pas s'en aller. Et puis après, l'événement, le gros événement marquant, c'était milieu de l'année dernière, donc milieu 2015. Donc moi, j'étais en réception de demandeurs d'emploi. J'ai donc une personne qui ne vient pas, donc j'ai un peu de temps pour gérer des mails, etc. Et donc j'ai des questions indemnisation. Et donc je descends à l'accueil pour voir un de mes collègues indemnisation. Donc ma collègue indemnisation à ce moment-là est occupée avec une personne. Donc je sens que l'entretien est en train de se terminer. La personne qu'elle recevait sort de ce bureau indemnisation, se retrouve dans la zone d'accueil et dit « je pense que je sais ce que je vais faire ». C'était un monsieur. On la voit enlever son ceinturon. Et donc, la première pensée, parce qu'on est tellement habitué, c'est il va revenir vers nous et il va essayer de mettre des coups de ceinturon à tout le monde, parce qu'on est quand même très habitué à ça. Et en fait, cette personne-là, non, se précipite vers l'escalier et commence à essayer de s'attacher, pour se pendre à l'escalier avec le ceinturon. On a été 5 à essayer de le récupérer, donc il n'est pas passé par-dessus la rambarde, etc. Il n'y a pas eu... Donc on l'a tenu à 5, on l'a fait décrocher, arrêter de serrer l'escalier pour qu'il puisse s'asseoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, son entretien avec l'indemnisation, cette personne-là devait 1000 ou 1500 euros, donc c'était une vraie somme. Pour que les gens en arrivent là, Ce qui est compliqué, c'est que très vite, donc on essaie de l'écrocher, on le pose, les pompiers, ma direction, les pompiers prennent le relais quand ils arrivent, et puis nous, on se retrouve dans un bureau, et tout d'un coup, on est un peu tremblant, et on essaye de repartir sur, alors on va regarder des offres, ou, et c'était un petit peu compliqué, parce que c'est des choses auxquelles on pense, c'est des choses auxquelles on pense le soir, voilà, en se disant qu'il y a des gens qui sont dans cette misère-là. Alors, je connais pas le temps de pondaison, mais j'imagine que ça prend un peu de temps et que, voilà, c'était juste complètement improbable que ça soit possible de le faire. Enfin, j'ai peut-être une autre image de la pendaison qui fait que, pour moi, j'ai juste empêché un incident à l'accueil, on va dire. Alors oui, un incident plutôt marquant, celui-là. Et puis derrière, on reprend le quotidien et on est pris voilà, dans l'enchaînement des mails.net qui continuent à arriver dans notre boîte. Et puis voilà. Aujourd'hui, quitter Pôle emploi, par exemple, en tant que conseiller, c'est quand même pas évident parce que on n'a pas forcément envie de se retrouver dans la situation des personnes qu'on a reçues tous les jours et que le marché de l'emploi est quand même très compliqué, que on reçoit aujourd'hui très peu de personnes qui disent bah voilà, je viens m'inscrire parce que ça fait 30 ans que je suis dans la même boîte. Aujourd'hui, c'est quand même, moi, les gens que je reçois, c'est quand même des gens qui ont enchaîné des missions intérim, un petit CDD d'un an, un contrat aidé et puis une nouvelle mission intérim. Enfin voilà, il y a quand même, c'est quand même beaucoup beaucoup de travail précaire. Et aujourd'hui, moi, quand je remplis des profils de demandeurs d'emploi, on est censé remplir le salaire minimum accepté. Et 95% du temps, je remplis 9,67 € de l'heure, c'est-à-dire le SMIC. Et donc, bah oui, je suis au-dessus du SMIC. Je pense que la difficulté aussi, c'est... Enfin, moi, je me considère comme un privilégié, aussi parce que ça fait 9 ans que je reçois des demandeurs d'emploi et qu'on est quand même du bon côté du bureau.
Marie Péchala, j'ai 66 ans, j'ai travaillé 28 ans à la INPE puis à Pôle emploi. Je suis partie de Pôle emploi en 2010 à l'âge de mes 60 ans, je n'ai pas fait un jour de plus, hein. Je suis partie en courant de Pôle emploi et depuis 2008 je m'occupe d'un site et d'un forum qui s'appelle Recours Radiation. Et ensuite, on a créé une association qui s'appelle Recours Radiation. Pour aller très vite, c'est la défense des chômeurs dans toutes les situations qu'ils rencontrent, en particulier avec Pôle emploi. Mais l'association Recours Radiation, elle, va au-delà, puisqu'on est allé au Conseil d'État il n'y a pas longtemps, en 2014, pour dénoncer la convention d'assurance chômage. On a eu une victoire qui était historique, puisque ça n'avait jamais existé. La convention d'assurance chômage a été annulée le 5 octobre 2015. L'UNEDIC et l'État ont dû mettre la convention d'assurance chômage en conformité.
Rosemary, vous décidez, vous me dites, de quitter Pôle emploi en courant. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous partiez en courant ?
Eh ben, je me suis retrouvée à revenir sur mon lieu de travail après un arrêt maladie et burn-out, hein, voilà. J'étais à mi-temps et j'avais, comme on dit, un portefeuille, c'est-à-dire un nombre de personnes à suivre hallucinant et j'y arrivais pas, quoi. Clairement, j'y arrivais pas. On avait appris à la NPE en tant que conseiller. Moi, je me suis retrouvée dans des formations où on nous apprenait que la perte d'un emploi, c'était un deuil à faire. C'était un deuil à faire. Moi, j'étais quand même, je fais partie de cette famille de conseillers qu'on appelait à l'époque prospecteurs placiers, etc. Où justement, il y avait des formations qui s'appelaient, par exemple, approche psychosociologique du demandeur d'emploi, qui veut tout dire et rien dire, mais en tout cas où on avait un contenu qui permettait d'avoir une réflexion, où on se disait, en face de nous, on a des êtres humains, et qui, même si ils ont une certaine dignité, même si ça ne paraît pas être des personnes affectées par leur licenciement, c'est possible qu'elles le soient. eh bien, ça s'est perdu au fil du temps, mais vraiment, quoi. C'est-à-dire que on a été, eux, ils disent, dans leur langage proactif, moi, je pense que c'est agressif. C'est-à-dire que les gens, on leur laisse pas le temps de réfléchir, on les bombarde d'offres d'emploi. Ça rend dingue. Pourquoi ça rend dingue? Parce que le harcèlement, il n'est pas seulement mis sur le chômeur, il est mis aussi sur le conseiller. Avec en plus le consentement de tout le monde, hein, l'État, les partenaires sociaux et tout ça. C'est-à-dire que Pôle emploi est méchant, mais il n'y a pas que Pôle emploi qui est méchant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un accord tacite de tous ces gens-là pour dire, allons-y, on file des grands coups de fouet à tous ces gens-là pour qu'ils se bougent les fesses. D'ailleurs, ils ont des prestations aujourd'hui qui s'appellent Active Emploi. Ça s'appelle Active Emploi. En fait, on n'active pas l'emploi. On active qui ? Le chômeur. Et on active qui ? Le conseiller. À qui on dit, tu vas prescrire cette prestation-là. Il y a des places, il faut les combler, et il faut que les chômeurs aillent au boulot. Et tu vas faire croire aux gens que c'est obligatoire, alors que la prestation Active Emploi n'est pas obligatoire. Ça, c'est aujourd'hui. Cette prestation Active Emploi, le cahier des charges, c'est-à-dire l'obligation du prestataire pour avoir des sorties positives, c'est-à-dire considérer que son action est positive, c'est 78 heures par mois. Voilà. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il trouve un boulot à quelqu'un de 78 heures par mois pour qu'il ait fait son job. Et il faut savoir aussi que ce prestataire-là, il commence à percevoir du fric à chaque fois qu'il a quelqu'un qui rentre dans sa prestation. D'accord ?
C'est le privé, hein ?
C'est bien sûr, ce sont des prestataires privés à qui on refile les chômeurs et à qui on leur dit « allez-y, trouvez-leur du boulot ».
Parce que c'est un harcèlement qui pouvait être bénéfique pour le chômeur.
D'abord, le harcèlement, c'est bénéfique pour personne. Il n'y a pas d'humanité dans la manière dont on se comporte. Pourquoi ? Par rapport et aux conseillers et aux chômeurs. Pourquoi ? Parce que inciter les chômeurs à trouver un emploi à tout prix... C'est absurde, c'est quand il n'y en a pas. Je veux dire, plus ça va, plus on demande aux chômeurs d'abandonner leur choix, leur désir, leur souhait ou leur survie. Parce que ce que la plupart des chômeurs qui recherchent un emploi recherchent, c'est un emploi à plein temps. Pour pouvoir payer leur loyer, pour pouvoir bouffer, parce que voilà, ils ne mangent pas des moitiés de bistec ou des moitiés de pommes ou une pomme de terre à l'eau tous les jours. Ils ont des enfants, il faut bien les nourrir. Bref, ce n'est pas des emplois précaires qu'ils cherchent. Précaires et à temps partiel, etc. Hein.
Les pieds sur terre, Pôle emploi ne quittez pas, épisode du lundi 29 août 2016, avec un reportage de Pascal Pascariello. C'était tout de suite dans Tunnel Tuning Tumeur, vous êtes sur Prune 92 FM, on va marquer une courte pause musicale en écoutant le dernier Muramasa avec le titre Demon Time en featuring avec Bailey. Et on se retrouve juste après.
She verified. In her not shut, no, no, on that pussy. Boring girl, and I like a stushy. Yeah, I think I like it gushy. Eat it up, and I like it bushy. Don't fucking push me. Nah. She know how to push me. Yeah. Just how to push me.
It's demon time. 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 Go. Go.
c'était à l'instant Muramasa et le titre Demon Time en featuring avec Bailey dans vos oreilles sur Prune 92 FM. Vous êtes dans Tuning Tumeur et la première partie de cette émission a été consacrée à un épisode des Pieds sur Terre, épisode intitulé en 2016 Pôle emploi, ne quittez pas, corrélé à une des questions posées ce jour dans l'émission qui concerne la rentrée à Pôle emploi. Avec la question, qu'en pensent leurs conseillers, conseillères à qui on dit félicitations, vous êtes de l'autre côté du bureau lorsqu'ils arrivent sur leur poste. Une autre question me taraude, pour tout vous dire, je rêve de faire venir un conseiller, une conseillère Pôle emploi dans l'émission. J'y prendrai un malin plaisir à poser la question suivante. Et finalement, c'est quoi votre sel de la vie à vous? On va en parcourir quelques exemples. C'est en tout cas ce que nous suggère au travers de son ouvrage Le sel de la vie, Françoise Héritier, née en 1933. Elle est la deuxième femme professeure au Collège de France après Jacqueline de Romy. Elle y a inauguré sa chaire d'études comparées et sociétés africaines en 1983. Après des études d'histoire et de géographie puis d'ethnologie à la Sorbonne et au Musée de l'Homme, c'est à la suite du séminaire de Claude Lévi-Strauss à l'école pratique des hautes études qu'elle décide de partir sur le terrain pendant l'année 1958 en Afrique occidentale. Devenue ethnologue africaniste, elle accomplit pour plusieurs années de mission, notamment en Haute-Volta, actuelle Burkina Faso, chez les Samo. Françoise Héritier entre au CNRS en 1967 et reçoit en 1972 la médaille d'argent du CNRS pour ses travaux sur le fonctionnement des systèmes semi-complexes de parenté et d'alliance. En 1980, elle devient directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Son champ de recherche sociale porte notamment sur la domination masculine, les systèmes de parenté et la prohibition de l'inceste. Françoise Héritier est morte le 15 novembre 2017, mais nous laisse une belle trace de ce qu'on peut appeler aujourd'hui et ce qu'on appellera peut-être demain dans un entretien à Pôle emploi, le sel de la vie. Françoise Héritier, le sel de la vie, j'en ai entendu parler la première fois dans un autre livre qui s'intitule plutôt « Couler en beauté que flotter sans grâce », réflexion sur l'effondrement d'une certaine Corinne Morel d'Arleux. Corinne nous dit dans cet ouvrage « Dans le sel de la vie, l'anthropologue Françoise Héritier a listé toutes ces petites choses agréables, drôles ou farfelues qui ont pimenté ou adouci sa vie. » Du plaisir de traîner des pieds dans les feuilles mortes à celui de suivre la course d'un lièvre à travers champs, sentir le poids de son corps recru de fatigue dans le lit, ou dormir sur l'épaule de quelqu'un, invitant le lecteur à aiguiser ses sens pour aller capter chacun de ses instants, exhortant l'ami à qui elle a écrit à voir, écouter, observer, entendre, toucher, caresser, sentir, humer, goûter, avoir du goût pour tout, pour les autres, pour la vie. L'auteur, qui s'estime elle-même nantie d'avoir pu choisir son métier, explique qu'elle a été confrontée à la critique quand le livre est sorti. Quelques rares lecteurs m'ont fait part de leur courroux, considérant mon approche du bonheur strictement réservée à des privilégiés que l'abrutissement des horaires de travail ou le chômage, la pauvreté ou l'insalubrité du logement, la précarité sociale ou l'endettement ne concernent pas. Cette objection, bien sûr, je l'entends et la respecte. Mais je persiste à penser que même dans les malheurs les plus destructeurs, il est possible de trouver une éclaircie. Chaque individu dispose de la capacité de percevoir ce qui peut lui faire du bien, même imperceptiblement. Dans ces pages, je considère comme une erreur d'établir cette confrontation, cette hiérarchie entre simplicité volontaire et misère, comme si l'une n'était qu'un choix de nanti et l'autre respectable car subi. D'abord parce qu'entre les deux, il y a un univers qui d'emblée les rend incomparables, l'intention, l'expression de la liberté individuelle qui ne saurait être entravée par la société, fût-elle abusivement normative, voire carcérale. Ensuite, parce que si l'on veut que les plus démunis aient les moyens de refuser la pauvreté, il faut que les plus privilégiés refusent la richesse, chaque bien matériel acquis dans un système capitaliste structurellement inégalitaire vient spolier ce qui, d'en bas, par le prélèvement sur un stock de ressources naturelles limitées et par des conditions de travail guidées par la recherche du profit. Victor Hugo écrivait à propos du travail des enfants « Travail mauvais qui prend l'âge tendre en sa serre, qui produit la richesse en créant la misère ». Quelques lignes que nous offre Corinne Morel-Darleux dans son ouvrage plutôt coulé en beauté que flotté sans grâce, des réflexions sur l'effondrement, nous introduit le travail de Françoise Héritier et son livre Le sel de la vie, paru aux éditions Odile Jacob. Mais c'est quoi le sel de la vie? Ou en tout cas, c'est quoi le sel de la vie de Françoise? Après lecture, ça m'a fait penser spontanément aux petites choses, aux petits orgasmes de la vie quotidienne auxquels on ne prête plus vraiment attention, des choses qui peuvent être sublimées dans les vidéos rocambolesques du Palmacho avec les petites victoires. J'ose espérer que vous vous souvenez de ces tonalités. Dans cette petite vidéo, on voit passer Charles Ludic, Grégoire Marsais, dans des situations de la vie de tous les jours. Trouver une pièce dans un distributeur, réussir à ouvrir un bocal de cornichons. Et ces petits exemples sont peut-être des invitations à découvrir de plus près le travail de Françoise Héritier et ses écrits dans Le sel de la vie. Alors, je vais vous en lire quelques extraits. 13 août 2011. J'ai été ravi de recevoir hier votre carte et de savoir que vous avez pris des vacances dans ce bel endroit qui fait rêver. Vous étiez donc bien dans les brumes écossaises. Pour autant, vous n'avez pas volé vos vacances par maraude ou par détournement. C'est plutôt votre vie que vous volez quotidiennement. Si vous tablez sur une durée de vie moyenne de 85 ans, soit 31 000... 25 jours avec toujours en moyenne et à la louche 8 heures de sommeil par jour, 3h30 pour les courses, la préparation des repas, leur consommation, la vaisselle, etc. 1h30 pour l'hygiène, les soins du corps, les maladies, etc. 3 heures pour l'entretien domestique, les enfants, les transports, les démarches diverses, le bricolage, etc. 140 heures de travail par mois sur 45 ans à hauteur de 6 heures par jour, mais sans tenir compte du plaisir que l'on peut y prendre. 1 heure par jour de rapports sociaux obligatoires, conversations de voisins, pots, assemblées, séminaires, etc. Que reste-t-il aux citoyens et à la citoyenne lambda pour les activités qui font le sel de la vie? Les vacances, le théâtre, le cinéma, l'opéra, les concerts, les expositions, la lecture, la musique que l'on écoute ou qu'on le pratique, les arts divers où l'on s'exerce, la promenade le nez en l'air, les excursions, les voyages, le jardinage, les visites amicales, le farniente, l'écriture, la création, la rêverie, la réflexion, le sport, tous les sports, les jeux de société, le jeu tout court, les mots croisés, le repos, la conversation, l'amitié, le flirt, l'amour, et pourquoi pas des plaisirs coupables. Vous aurez noté que je ne parle même pas du sexe. Oui, je vous le donne en mille, 1h30 par jour pendant la période dite active de la vie, 5h30 avant ou après. Et vous, vous étirez votre temps de travail en prenant sur tous les autres temps et vous faites l'impasse sur toutes ces choses agréables auxquelles notre être profond aspire. Août, quelques heures plus tard, j'ai omis de bien des choses dans la liste de celles qui font le sel de la vie. Je poursuis donc en suivant la méthode des surréalistes, association d'idées et laisser venir à soi. Tout cela risque de vous paraître hédoniste car j'ai laissé de côté tous les raffinements du plaisir intellectuel ou de celui qu'on éprouve dans les engagements, et bien peu sérieux même si je ne parle pas du sexe. Il s'agit néanmoins des choses très sérieuses et très nécessaires pour conserver du goût. Je vous parle des frémissements intimes qui apportent de petits plaisirs, des interrogations et même des déconvenues si on leur laisse le loisir d'exister. Je continue. J'ai oublié les fous rires, les coups de fil à bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains du moins, ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge et les petits blancs. le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur un arbre, les coups de gueule pour rire, l'entretien d'une collection de pierres, de papillons, de boîtes, que sais-je, la béatitude des fraîches soirées d'automne, les couchers de soleil, être réveillé la nuit quand tout le monde dort, chercher à se remémorer les paroles de chansons d'autrefois, la recherche d'odeur ou de saveur, lire en paix son journal, feuilleter des albums de photos, jouer avec son chat, construire une maison de fantaisie, mettre un beau couvert, tirer négligemment sur une cigarette, tenir son journal, danser. Ah, danser. Sortir et faire la fête, aller au bal du 14 juillet, écouter le concert du Nouvel An comme des millions d'autres Français et Françaises, se vautrer sur un canapé, flâner dans les rues en faisant du lèche-vitrine, essayer des chaussures, faire le pitre et des imitations, aller à la découverte dans une ville inconnue, jouer au foot ou au Scrabble ou au domino, faire des jeux de mots ou des calembours, raconter des calembres d'Aisne, préparer un plat compliqué, pratiquer la pêche à la ligne ou le jogging ou la pétanque, ruminer autour d'une idée, regarder un vieux film à la télévision ou dans une salle d'art et d'essai, siffloter les mains dans les poches, avoir l'esprit vacant, des moments de silence et de solitude, courir sous la chaude pluie, les longues conversations dans la pénombre, les baisers dans le cou, l'odeur des croissants chauds dans la rue, les clins d'œil de complicité, les moments où tout se tait dans la nature, écouter les cris des joyeux enfants en récréation, se repaître de glace ou de chocolat, les moments que l'on sait complets, qu'on vous regarde ou qu'on vous écoute, se sentir leste et ingambe, faire la grasse matinée, monter sur un bateau de pêche, observer un artisan, s'arrêter pour un bonimenteur, tiens, ça fait longtemps celui-là, jouir de spectacles de la rue, retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis des lustres, prêter vraiment l'oreille aux autres. J'oublie tellement de choses encore. Et vous, qu'est-ce qui vous manquerait le plus si tout cela venait à disparaître à jamais de votre vie ? Écouter religieusement Mozart, les Beatles ou Astrid Gilberto, faire un aller-retour en une nuit en Suisse pour aller assister à un concert à son chanteur préféré, se gorger de fraises des bois, prendre des chemins côtiers un jour de grand vent, attendre une éclipse ou le passage nocturne d'un grand-duc, se creuser la tête pour savoir ce qui ferait plaisir à l'autre, marcher nu-pied, prêter l'oreille à des voix répercutées par la mer, s'étirer ébahi, allumer juste une petite lampe ou des gros projecteurs, courir le gui doux et faire des compliments, être à l'affût des regards qui en disent long, corner une page même si cela ne se fait pas, envoyer bouler un temps la politesse, oublier de prendre son courrier, se tenir par le bras ou par la main, marcher à contre-courant, tenir la porte à un élégant vieux monsieur, se rouler en boule, humer l'air du petit matin frais, regarder les branches secouées par le vent, faire un feu qui crépite, bien, après du saucisson et des cornichons, guetter la minute à 20, moins 20 et à l'heure, où un ange passe fugitivement, puis fugitivement, mettre les pieds dans le plat, secouer ses cheveux en tous sens, sourire à ce qui ne s'attend pas, parler sérieusement d'un sujet frivole et plaisanter d'un sujet grave, mais pas n'importe qui, pas avec n'importe qui, ne pas s'en laisser compter par la brute de service ou par le monsieur je sais où, jouir sans complexe de ce qu'on aime, rugissement de voiture de course y compris, écouter la vie en soi, dormir étalé sur le dos, saluer de la main comme Colombo, grimper à quatre pattes les escaliers, arriver hors d'haleine quelque part, pleurer au cinéma, manifester ses émotions ou garder au contraire un calme olympien, se taire, admirer, écouter, se remettre au vélo ou au piano ou au tir à l'arc, utiliser au hasard des promenades, les toilettes de luxe d'un grand hôtel, s'installer franchement dans un fauteuil trop profond, ramasser de petits objets incongrus, plonger ses mains dans la mousse des sous-bois ou des lessives, écouter le roulement de tambour du garde champêtre, c'est fini. Ou des limonaires dans la rue, c'est fini aussi. Poursuivre son ami à la course, s'asseoir à côté d'une fenêtre ouverte, se réveiller dans un lieu qu'on ne reconnaît pas, avoir le cœur battant, peser des arguments, sous-peser un melon, revoir un ami d'enfance, retrouver des souvenirs enfouis, Mon Dieu, c'est vrai. Prendre son temps pour choisir un rien et décider à l'emporte-pièce des choses importantes. Suivre le vol d'une seule hirondelle au milieu des autres. Observer d'en haut un chat qui n'en doute pas. Sans doute pas. Rire sous cap, attendre l'heure bleue, arroser ses plantes et leur parler. Apprécier le coucher, le toucher d'un beau cuir et d'une pêche ou d'une échevelure. Étudier dans le détail l'arrière-plan de la Joconde ou des dentelles de Vlaminck. Sursauter de plaisir au son d'une voix, partir à l'aventure, rester dans la pénombre, à ne rien faire. Goûter du bout des dents des sauterelles grillées, se faire plaisir dans des conversations sans fin avec de vieilles amies, imaginer de belles histoires, imaginer de belles histoires. Continue au risque de vous ennuyer car cela va devenir de plus en plus pointu. J'ai l'impression d'affouiller des rives qui s'éboulent après tout. Je vous donne des billes pour le jour où dans 20 ans on vous demandera comment j'étais. Chuchoter au téléphone, prendre des rendez-vous des années à l'avance, se pâmer devant le port de Robert Mitchum, la démarche d'Henri Fonda, le sourire de Brad Pitt, la beauté romantique de Ginny Ternay ou de Michelle Pfeiffer. L'ingénuité de Marilyn Monroe, la grâce de Audrey Byrne, savourer une Coppa del Nonno à Laurence, Florence, soupirer d'aise, flâner dans les rayons d'un grand magasin, rouler en jeep sur des pistes défoncées, manger à main nue, à croupetons, sous, autour d'un plat, partager une noix de cola ou une barre de chocolat, avoir peur au cinéma, lire des polars ou de la bonne science-fiction. Prendre sans vergogne la plus belle pêche du plateau de fruits. Sortir avec précaution des bigorneaux de leurs coquilles. Manger dans un vrai routier. Sur une nappe à carreaux, faire teinter des verres de cristal, assister à un beau match de rugby. Jouer à la belote, ou au rami, ou au yams, ou aux petits chevaux, ou au domino. Être mauvais joueur avec de mauvais joueurs. Protester véhément pour une broutille, refuser de traiter avec les colériques, enfants compris, et s'offrir le luxe à ceux-là de leur faire les gros yeux dans les magasins. S'offrir aussi le luxe des taxis réservés à l'avance et contempler les files d'attente aux stations. Avoir un parapluie quand il faut et assez grand pour marcher plusieurs. Marcher d'un bon pas, traîner des pieds dans les feuilles mortes, sourire tendrement à la photo de sa grand-mère. Écouter les hulottes de la nuit, les grillons le jour, faire un bouquet de fleurs de talus. Regarder glisser les nappes de brouillard, suivre la course d'un lièvre à travers champs ou celle de train de Union autour du port de Nice. Essayer de saisir le moment où l'on s'endort, sentir le poids de son corps recru de fatigue dans le lit, être reçu à un examen, dormir sur l'épaule de quelqu'un, participer à une liesse populaire, voir un beau feu d'artifice, écouter la calasse, ou gémir le vent, ou crépiter la grêle, regarder le feu, manger un sandwich dans la rue, marcher sur du sable chaud mais pas trop, siroter, faire saut, intro, un peu. Ah, bien, et ah, bien pipi dans la nature, et très beau, aux larmes, hurler de joie devant un tir, il rattrape un peu le football, être caressé, embrassé. C'était Françoise Héritier et son ouvrage Le sel de la vie. J'aurais pu continuer comme ça très longtemps, mais je vais m'arrêter là. Peut-être que j'en lirai d'autres dans d'autres épisodes de Tune et Tuning Tumeur, dont l'épisode de rentrée se termine déjà. Merci à vous pour votre écoute et votre présence lumineuse. Merci à nos deux auditeuristes d'avoir été avec nous. On se retrouve au mois de novembre sur la même fréquence, Prunienne, 92 FM. Vous pourrez bien entendu rembobiner la casquette de cette émission. Rembobiner la casquette ou la cassette, c'est au choix, malheureusement. En retrouvant son podcast sur prune.net, moi je vais aller me coucher, je vous laisse entre les mains de Roman et l'émission Retour de marché pour une pause méridienne où l'info locale se mêle à des activités culinaires. On va se quitter tout en musique, toujours, avec un titre de Alvez, Very Online Guy. C'était une tumeur. Allez, on appuie sur le bouton rouge et on vous dit salut.
Je mets le code. Ensuite, je mets le contact et j'appuie sur le bouton rouge. Ah, c'est... Ça ne laisse pas indifférent.
Tu nais, tu nignes, tu meurs.